Ici Roger Malina sur Creative Disturbance. Je suis ravi d'être à nouveau avec Pierre-Alain Hubert ici à Marseille avec les cigales que vous entendez. Pierre-Alain, tu te représentes un peu rapidement et puis on va discuter de ce que tu fais en ce moment.
Bien. En fait, j'ai toujours aimé l'art public, je dois dire. C'est pour ça qu'il y a des choses ici comme la station de prestige Vieux-Port à Marseille. Il y a des sculptures dans pas mal de lycées, des choses comme ça. Mais ce qui était la chose la plus importante, c'était réjouir et émerveiller les gens avec des lumières qui sont dans le ciel, qui sont dans les villes, qui sont le bord de mer, qui utilisent d'une façon poétique tout ce qui existe dans la nature. J'en ai fait dans les calanques, j'en ai fait dans des bois, voilà. Je veux toujours leur donner un sens. Et puis maintenant, c'est la question de l'échelle qui m'intéresse le plus.
Attends, je vais te couper. Donc, je vais un peu recontextualiser cette discussion. Donc, en effet, on est ici aujourd'hui dans un endroit qui était l'Observatoire de Marseille, où j'étais directeur pendant le dernier directeur même, et qui accueille aujourd'hui l'Institut méditerranéen de recherche avancée, l'IMERA, qui est un centre d'accueil pour des artistes en résidence et des scientifiques en résidence. Et donc, en effet, une des personnes qui a été en résidence ici, c'est un chercheur qui s'appelle Jim Jimczewski, qui vient de UCLA, mais travaille beaucoup au Japon, et travaille dans les nanosciences. Donc là, je me permets de rebondir, parce qu'en effet, dès qu'il est arrivé, vous vous êtes rencontrés très vite, vous aimiez tous les deux le whisky, je crois, entre autres. Et rapidement, en effet, cette question des échelles, puisque lui, il était nanoscientifique et toi, tu faisais des spectacles géants. Donc, parle-nous un peu de la question des échelles.
Ben voilà, ça m'a interrogé. Il a fallu que je fasse une petite présentation de quelque chose où il était présent, bien sûr. Et j'ai amené le plus petit feu d'artifice du monde parce que je pouvais le faire dans l'IMERA, c'est tout. Seulement, ça l'a énormément intéressé. De voir qu'on pouvait descendre la taille d'une étincelle et qu'elle soit encore poétique, jolie, très belle, aussi belle qu'une fleur, aussi belle qu'une branche de pin. Voilà, c'est un travail que j'ai fait avec mon maître japonais, décédé maintenant, Takeo Shimizu. Et voilà. Et alors, ça l'a intéressé. Et du coup, on a dit, bah là, on va faire des choses ensemble.
Donc, en effet, la question est double. C'est que, comme tu le dis, esthétiquement, on peut réduire l'échelle de quelque chose, mais en effet, avoir l'impact esthétique, parce que des fois, la structure est préservée, même si l'échelle est différente. Bien sûr, il y a tous les effets psychologiques de détonation, d'étincelles, l'effet dynamique du phénomène. Mais scientifiquement, il y a aussi une question toute bête, c'est quelle est la plus petite explosion qu'on peut faire dans un feu d'artifice. Donc, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut réduire le feu d'artifice? Donc, vous avez commencé à faire des choses ensemble.
Voilà, on a commencé à faire des choses ensemble.
Et qui sont sur YouTube, je crois.
Oui, qui sont sur YouTube, effectivement. Et, je pense qu'un millimètre. Mais on n'est pas dans le nano quand on est dans le micro, c'est tout. Alors, la question que je veux lui poser, moi, c'est... hier, j'ai eu une leçon de physique quantique. À la fac Saint-Charles, et à un moment, j'ai noté une phrase qu'elle n'a pas dit,
c'est avec
monsieur
un
Lima,
qui s'appelle Lima.
Oui, Ricardo Lima. Voilà.
Ricardo Lima, oui.
Qui était d'accord pour me donner des leçons de temps en temps. Voilà. C'est génial, parce que je le voulais. Ouais. Depuis le début, je n'ai jamais pu poser ce genre de questions aux gens de l'IMERA qui avaient toujours autre chose à faire. Même Jim, il ne voulait pas venir dans mon labo, histoire qu'on mélange des trucs. Non, ça... Mais on va y arriver, voilà. Alors la question, parce qu'elle est bien cette question du micro. Comment transposer une unité quantique en quelque chose de perceptible par un humain? Car ce que recouvre ce volable est effectivement situé en dehors de la portée directe de nos sens. Par exemple, il n'y a pas assez d'énergie. Alors... il m'a dit, mais moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, écoute, c'est comme ça que j'ai compris une partie de ton cours, et c'est exactement ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, jusqu'à quel niveau ça va être perceptible, par l'œil, mais c'est pour moi. Ça peut être par le son, ou par l'odeur, ou par d'autres choses. Jusqu'à quelle limite? Et à partir du moment où on a franchi cette limite en dessous, ce qui est tout à fait habituel pour les gens qui travaillent le quantique, qu'est-ce qu'on en fait si on veut en faire quelque chose d'artistique, puisque ça n'a pas de trace?
Oui, en sachant que, bien sûr, l'émission de photons, c'est un phénomène qui se fait au niveau quantique. Mais en effet, ce qu'on voit, c'est l'absorption du photon. Et là, on est plutôt, on n'est plus vraiment dans le nano ou le quantique. Et donc, comme tu dis, comment est-ce qu'on traduit des phénomènes qui sont seulement possibles à une échelle à quelque chose qui est compréhensible à une autre échelle? Et tu as des idées?
J'en ai pas, hélas. Je me remue la tête. Hein, on va faire brainstorming. Parce qu'avec des physiciens ici, j'ai déjà vu Jacques Mandelbrot, il me dit qu'il n'y arrive pas non plus, etc. Parce qu'il faudrait trouver quelque chose. Si je suis invité réellement en petit séjour au Nanolab, la question se pose, il y a une galerie. Qu'est-ce qu'on va mettre dans une galerie de nano?
Par hasard, il faudra que je te mette en contact avec un jeune chercheur en nanosciences espagnol qui s'appelle Guillermo Munoz. Il est en ce moment en résidence dans les résidences Arts Sciences de Leonardo à la Fondation Gerassi à San Francisco. Et en effet, il est en train de travailler, je crois, avec un musicien pour essayer de traduire ce qui s'appelle des nanodots. Hein, donc, et comment traduire ça en expression musicale. Alors là, c'est vraiment de la traduction, hein, parce que c'est clair. Et je crois que là où ça devient compliqué, parce que si c'est trop métaphorique, ça perd peut-être de l'intérêt. Si c'est trop analogique, c'est peut-être trop mécanique. Et donc, comment trouver une façon d'exprimer des phénomènes, comme tu dis, avec lesquels on n'a pas de contact direct avec nos sens. Hein, c'est clair que toute notre façon de concevoir les choses vient de notre expérience de tous les jours, du toucher, de l'odorat, de la vision, de l'oreille, comme on dit. Et là, je crois qu'on sous-estime beaucoup que cette expérience répétée avec les sens construit complètement ce modèle qu'on a du monde. Et là, avec le quantum, on n'a pas cette expérience directe. Et donc, comment on forme une intuition sur des phénomènes avec lesquels on n'a pas de contact sensoriel? Donc, tu n'as pas encore des idées.
Je n'ai pas encore des idées parce que, hélas, quand j'ai travaillé avec Philippe Dumas, etc., quand on a vu des images que du microscope à balayage électronique, atomique, j'ai vu ce qui serait pour un peintre une image rayée avec un outil, et c'est tout. Et on m'a dit, c'est un atome d'or. C'est un atome d'or. Je dis, ouais, mais je peux t'en faire beaucoup.
Beaucoup
si tu veux. Et beaucoup mieux. Et voilà. Et effectivement, il m'a dit, mais c'est une image que l'œil ne voit pas, qu'une machine nous a transposée à travers une autre machine. Ouais. À la fin, on nous a dit, voilà, ça, on est à tel grossissement qui est fabuleux. Et voilà ce qu'on voit, et on ne voit rien. C'est pour ça que Jim...
Après, à la fin de cette chaîne, quelqu'un a fait un choix d'ajouter des couleurs.
Oui, par exemple.
Qui n'ont rien à voir.
Qui n'ont rien à voir, exactement. Voilà.
Et Jim disait quoi?
Alors Jim, lui, quand il propose, c'est un mandala, c'est génial. C'est très drôle parce que c'est très probable que c'est proche d'un mandala. Ouais. Que, disons, par des sensations extrasensorielles que peuvent avoir des lamas, que peuvent avoir des méditants, puisqu'on a remarqué qu'ils étaient extrêmement sensibles, on puisse avoir une image qui soit un mandala. C'est une astuce très intelligente. Alors moi, j'en sais rien. Je voudrais bien parler avec lui, avec Victoria Vesna, qui elle aussi a grandi des choses, parce que je n'ai pas de vue d'œuvre nano de Victoria Vesna.
Oui. Non, mais comme tu sais, elle a travaillé sur ces projets de morph.
Ouais, c'est beau,
avec le morph. Mais c'est pas du nano. Hein, on est sur la transposition de phénomènes qui sont en effet pas visibles à l'œil nu, mais sont quand même des structures dans les papillons, etc., où elle a travaillé. Bon, écoute, il nous reste 2-3 minutes. Donc, de quoi va-t-on parler, Pierre-Alain ?
Je ne sais pas, parce que c'est une énorme question. J'espère résoudre quelque chose à ma façon, en ayant une image possible extrasensorielle de quelque chose, mais alors, c'est pas facile.
Donc peut-être des choses un peu très, très vagues et générales. Donc, en effet, comme tu le sais, en partie pour des raisons familiales, mais maintenant, c'est mon métier, j'essaye de créer des contextes où des artistes et des scientifiques se rencontrent et qu'il y ait éventuellement du travail collaboratif qui en sort ou quelque chose qui... alors, pourquoi tu es motivé par cette curiosité sur... Parce que si tu réfléchis à ton parcours, tu es toujours en train d'aller piocher dans les poubelles des ingénieurs et des chercheurs.
Oui, c'est vrai. C'est l'amusement. La première fois, qu'est-ce qui t'intéresse, me demande Jim. Je lui dis K0. Il me dit la constante de Boltzmann. Ouais. Je dis non, K0, c'est on n'est plus embêté par la police parce qu'on est en dessous des normes de sécurité qui sont K4, K3, K2. Alors ça l'a fait rire, ça. Et là, elle a commencé à écrire des formules. Voilà, alors pourquoi ? Parce que c'est vrai, je veux m'échapper de... Je ne peux plus travailler comme je travaillais il y a 40 ans. Je ne peux plus rien faire en pyrotechnie que d'utiliser des ordinateurs avec des logiciels nouveaux. Ça ne m'intéresse pas spécialement, ça donne les mêmes résultats.
Tu ne peux plus à cause des normes de sécurité.
À cause des normes de sécurité.
Qui empêchent les
qui empêchent
artificiers
tout tout
expérimentation.
Expérimentation, ouais. Voilà, absolument toute expérimentation. Si ce n'est pas déjà classé dans des systèmes dont on a depuis 5 ans essayé 10 fois les formules, voilà, ou 5 siècles, on n'a pas le droit de l'utiliser. Ouais. Et puis, attention,
écoute,
leur système est très vache.
Écoute, je crois qu'on va donner à ce podcast le titre K0.
K0, voilà.
Comment, jusqu'à... quand on peut aller sans attirer l'attention de la police.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça le but. Ce n'est pas aller vers plus grand dans le feu
d'artifice. C'est une contrainte qui en effet, te force de chercher des sorties créatives en prenant en compte ces contraintes qui sont réelles. Hein, donc,
oui, il y a les feux d'artifice.
Et K0, c'est quoi que ça veut dire K0, c'est les 4K, c'est ça?
Oui, c'est 4K. K4, le plus dangereux, K3, un peu moins, K2, utilisable par des enfants et dans un jardin, et après K1, ça, c'est rien.
C'est une bougie ou quelque chose.
C'est une bougie.
D'accord. Écoute, je vais utiliser ce terme. Écoute, Pierre-Alain, on va s'arrêter là. C'est un plaisir, comme d'habitude, de bavarder avec toi, et j'espère que les auditeurs sont intéressés. Et si vous voulez contacter Pierre-Alain, vous trouverez toutes les informations sur le site web de Creative Disturbance. Merci.